VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 10h, temps universel. Une femme kamikaze s'est faite exploser ce matin dans la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où des djihadistes nigériens de Boko Haram mènent régulièrement de telles actions. Une seconde a été tuée par l'armée avant d'actionner sa charge, selon des sources militaires. Le jeudi est traditionnellement jour de marché à Mora, ville stratégique dans le dispositif de lutte contre Boko Haram. Elle abrite notamment le quartier général du premier secteur de la force multinationale mixte, une coalition régionale créée par le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, auquel s'est ajouté le Bénin pour combattre les membres de Boko Haram. Le 21 août, 3 civils avaient été tués à Mora dans un attentat suicide. Amnesty International accuse les forces de sécurité nigériennes d'avoir réprimé dans le sang des manifestations pacifiques pro-Biafra dans le sud-est du pays, entraînant la mort d'au moins 150 personnes entre août 2015 et août 2016. Pour Samira Daoud, la directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'usage de la force était disproportionné.
C'est clairement une opération visant à semer la terreur et à réprimer de manière meurtrière. Il ne s'agit pas de cas isolés, il ne s'agit pas de bavures, il s'agit véritablement d'ordres qui auraient été donnés. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté sur le terrain, où les militaires sont venus pour clairement finir avec les manifestants.
Samira Daoud d'Amnesty International. Le gouvernement rwandais a jugé inadéquates les excuses présentées par l'Église catholique rwandaise pour le rôle de certains de ses membres lors du génocide rwandais de 1994 qui a fait environ 800 000 morts, affirmant que le Vatican lui-même devrait demander pardon pour ses crimes. Dimanche, une lettre d'excuses signée par les évêques des 9 diocèses du Rwanda avait été lue dans les églises du pays à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a insufflé une dose de diversité dans son équipe en cours de formation en nommant mercredi au poste d'ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, une jeune gouverneure d'origine indienne, et une autre femme, Betsy DeVos, à l'éducation. M. Trump pourrait aussi annoncer la nomination de son ancien rival de la primaire républicaine, Ben Carson, un noir au poste de ministre du Logement. Le point, Anna Besson.
En nommant Nikki Haley, 44 ans, gouverneure républicaine de Caroline du Sud, M. Trump semble vouloir élargir sa base. Madame Haley l'avait critiqué avec virulence lors des primaires et pris position pour l'un de ses rivaux, Marco Rubio. Aux États-Unis, l'ambassadeur à l'ONU, poste occupé depuis 2013 par Samantha Power, est membre de l'administration et donc l'un des principaux collaborateurs du président. Madame Haley, dont la nomination devra être approuvée par le Sénat, sera chargée à l'ONU de suivre notamment les crises en Syrie et en Ukraine, des dossiers sur lesquels Donald Trump a affirmé vouloir davantage de coopération avec la Russie. Donald Trump a aussi nommé la femme d'affaires milliardaire et philanthrope Betsy DeVos, 58 ans, comme ministre de l'Éducation. La nomination de Ben Carson au logement devrait être annoncée prochainement, a lui-même indiqué le neurochirurgien à la retraite sur sa page Facebook. Donald Trump, en ce moment en Floride pour la fête de Thanksgiving, va profiter de ce long week-end pour peaufiner la constitution de son équipe et pourvoir 3 postes clés. Le chef de la diplomatie, le secrétaire à la défense et le secrétaire au trésor. Selon les médias américains, Mitt Romney, ancien candidat à la présidentielle en 2012 et féroce contempteur de Donald Trump, reste en course pour se voir confier les affaires étrangères.
L'armée turque a mis en cause les forces du président syrien Bachar al-Assad dans la mort de 3 soldats turcs tués aujourd'hui par un bombardement dans le nord de la Syrie. C'est la première fois qu'Ankara met en cause le régime syrien dans la mort de soldats turcs depuis le début d'une offensive lancée par la Turquie dans le nord de la Syrie le 24 août dernier pour repousser les djihadistes de l'organisation État islamique et les milices kurdes vers le sud. Et puis la Colombie signe aujourd'hui avec la guérilla des FARC un accord de paix mettant fin à plus de 50 années de conflits armés, texte renégocié pour inclure des propositions de l'opposition suite au rejet d'une première version par référendum. L'accord conclu le 12 novembre, après 6 semaines de négociations, sera à nouveau signé par le président Juan Manuel Santos. Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.